France Inter.
France Inter, il est 13h. Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. La guerre commerciale est désormais déclarée. Qui va en pâtir et comment réagir? C'est toute la planète qui s'interroge après les droits de douane annoncés hier soir par Donald Trump. On ira à Bruxelles où l'on prépare la riposte tout en croyant encore au dialogue. Côté français, Emmanuel Macron reçoit les représentants des filières les plus touchées, notamment le luxe. Le délégué général de la Fédération des entreprises de beauté est avec nous dans ce journal. Et puis aux États-Unis, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
On va voir avec vous que cette avalanche de taxes suscite aussi des critiques.
Oui, sur les conséquences que tout ça va avoir sur le portefeuille des Américains, avec des élus républicains qui osent même s'opposer sur le sujet à la Maison-Blanche.
Merci Camille, à tout à l'heure. L'actualité ce jeudi, c'est aussi la Hongrie qui décide de quitter la Cour pénale internationale, la suppression possible des ZFE, les zones à faible émission qui pourraient coûter cher, selon Bercy. Et puis ce rapport publié par l'Académie de médecine 5 ans après le Covid. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Céline.
Aucune certitude, toujours aucune certitude sur les origines de la pandémie.
Non, il n'y a aucune preuve formelle dans un sens comme dans l'autre, écrivent les académiciens. Impossible toujours de savoir si le SARS-CoV-2 provient d'une fuite du laboratoire à Wuhan ou d'un réservoir animal dans un marché. En revanche, il faut mieux anticiper en vue d'une prochaine épidémie. L'Académie de médecine formule donc 4 recommandations essentielles.
Et on va les détailler tout à l'heure avec vous, Victor Dolande. Et puis à 13h30, on vous présente la nouvelle série d'Arte 37 secondes qui revient sur le naufrage du Bugalet de Braz il y a 20 ans dans des conditions très mystérieuses. Et on attend vos questions 01 45 20 24 7000 et bien sûr l'appli France Inter. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Donald Trump est venu au pupitre avec une grande liste, comme un bulletin de notes géant où chaque pays craignait d'avoir une plus mauvaise note que son voisin. 20% de droits de douane pour l'Union européenne, 26% pour l'Inde, 46% pour le Vietnam et jusqu'à 54% pour la Chine, car ces nouvelles taxes s'ajoutent aux précédentes et on pourrait compléter tout cela avec une autre liste, celle des bourses, qui ont ouvert à la baisse ce matin, moins 1,81% par exemple à Paris, ce qui montre bien l'onde de choc provoquée par la Maison-Blanche. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
C'est vous que j'accueille en premier pour tenter de mesurer l'impact des annonces américaines. Et les réactions sont venues du monde entier.
À commencer par la Chine, touchée par de nouveaux droits de douane massifs, Pékin exhorte Washington à revenir sur sa décision. La diplomatie chinoise a diffusé cette nuit un clip en anglais, image saccadée. On voit notamment un cow-boy avec un fouet. Le commentaire dénonce l'hégémonie et l'avidité des États-Unis.
Violence. Hegemonism, exploitation, provocation, tariffs. Do you want to live in a world like this?
Est-ce le monde dans lequel nous voulons vivre ? Interroge ce clip qui espère fédérer autour de Pékin l'amertume envers les États-Unis. Amertume, y compris d'ailleurs chez des alliés proches de Washington, le premier ministre australien Anthony Albanese.
La décision de l'administration Trump ne répond à aucune logique. Elle va à l'encontre du partenariat entre nos deux nations. Ce n'est pas comme ça qu'on agit quand on est amis.
L'Australie touchée par des droits de douane à 10%. L'italienne Giorgia Meloni, elle, seule dirigeante européenne invitée à l'investiture de Donald Trump, ne cache pas non plus sa déception. Une mauvaise décision qui peut affaiblir l'Occident, selon elle. Elle dit vouloir travailler avec les autres pays européens pour obtenir un meilleur accord. Parmi les 27, une voix dissonante, celle de la Hongrie, qui estime que ses droits de douane montrent l'incompétence et la faiblesse des institutions européennes.
Le choc partout, donc, on l'a bien entendu avec vous. Merci Frédéric Saïs. Mais dans les faits, certains s'en sortent tout de même mieux que d'autres. Bonjour Luc Chemelin.
Bonjour.
Du service économie de France Inter. Regardons l'impact de ces mesures zone après zone. Qu'en est-il tout d'abord de l'Union européenne ?
Eh bien, même si au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre l'UE et les États-Unis ont plus que doublé, l'impact sera assez limité, d'après le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Un de ses économistes se base sur les premières estimations. Alors oui, il y aura potentiellement une baisse du PIB, mais contenu entre 0,2 et 0,5%. Mais si on regarde dans le détail, certains pays seront plus touchés que d'autres, notamment l'Allemagne et l'Italie qui exportent beaucoup outre-Atlantique. Concernant la France, plusieurs de nos filières seront très impactées. Alors il y a le luxe. La Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux craint, elle, un recul des ventes d'environ 800 millions d'euros. Alors hors Union européenne, l'Asie risque d'être touchée de plein fouet, notamment le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam aussi, qui est une plateforme manufacturière majeure. Sans oublier bien sûr la Chine, qui pourrait voir son PIB baisser d'1% selon les premières analyses.
Et puis il y a un paradoxe dans tout ça, Luc, c'est que les États-Unis ne seront pas épargnés.
Et oui, vu que ces hausses de taxes concernent pratiquement tous tous ses partenaires mondiaux, oui, il y aura un impact, avec un risque qu'il retombe sur le consommateur, selon Denis Ferrand de l'Institut d'études économiques Rexecode.
Soit c'est les acheteurs américains qui importent des produits de l'étranger qui ne vont pas avoir en face d'eux une possibilité à répercuter les hausses de prix et donc ils vont le prendre dans leur marge. Soit ce sont les exportateurs européens, par exemple, qui vont devoir consentir une baisse de prix. Soit ces mouvements de prix ne se font pas et alors les droits de douane se répercuteront à plein sur le consommateur américain.
Avec donc des hausses sur certains produits, notamment dans les supermarchés ou par exemple sur les appareils électroniques venus de Chine.
On ira d'ailleurs voir dans un instant comment les Américains ont vécu cette déclaration de guerre commerciale. Merci beaucoup, Luc Chemla. D'abord, voyons côté français ce qu'il en est avec vous, Julien Nenny du service politique. Bonjour.
Bonjour.
Grande réunion de crise, hein, tout à l'heure, à partir de 16h. Emmanuel Macron reçoit les représentants des filières concernées, l'aéronautique, l'industrie, la chimie, la viticulture, le luxe. Et au-delà de la sidération, Julien, il s'agit de commencer à étudier les réponses à apporter.
Oui, je vous promets que notre réponse sera très ferme, très vigoureuse, parce que c'est nécessaire. Voilà l'engagement d'un ministre directement concerné par ces droits de douane massif imposé par Donald Trump et qui sera à l'Élysée, bien sûr, tout à l'heure autour d'Emmanuel Macron et de toutes les filières menacées. Mais quelle réponse, quelle mesure de réciprocité? C'est bien sûr tout l'objet de cette réunion de crise, car même si c'est d'abord à l'UE de trancher, par exemple en taxant les géants américains du numérique, c'est en préparation, la France, deuxième économie européenne, a évidemment son mot à dire. Bref, l'heure est grave. C'est ce qu'a rappelé François Bayrou ce matin.
Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis. Ça ouvre un temps d'incertitude qui remet en cause ce que nous avons mis tant de temps à construire et qui remet en cause notre économie et la société française tout entière. Ce sont des temps graves dans lesquels nous sommes entrés.
Le Premier ministre sera bien sûr présent lui aussi à la réunion de cet après-midi à l'Élysée. L'inquiétude est énorme, souffle une autre ministre dont le secteur est une victime directe de la décision américaine et qui voit même une sorte de harakiri, on l'a dit à l'instant. La logique de Trump, dit-elle, c'est tant pis si on se fait beaucoup de mal, tant qu'on détruit le reste du monde, l'impact économique aux États-Unis sera tragique. Fin de citation.
Julien Nenny, service politique de France Inter. Et parmi les représentants qui seront reçus tout à l'heure par Emmanuel Macron, il y a le délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté. Bonjour Emmanuel Guichard.
Bonjour.
Merci d'être dans le studio du 13-14. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ?
L'état d'esprit, c'est surtout que cette guerre commerciale, elle va faire que des perdants. Elle va faire des perdants qui sont les consommateurs américains. Ils auront moins de choix et ils auront des produits plus chers. Et puis les perdants sera aussi l'industrie européenne parce que c'est des produits qu'on ne produira pas.
Et est-ce que les entreprises que vous représentez, les industries les entreprises de la beauté, feront partie de ces perdants, justement ?
Alors, il y aura forcément un impact, hein, bien évidemment. Une hausse de droits de douane de 20%, ça a forcément un impact sur le marché. La question, c'est que nous, les exportations vers les États-Unis, c'est 3 milliards d'euros, donc c'est 13% de nos exportations. C'est à la fois beaucoup et en même temps, on exporte 10 milliards vers l'Union européenne. Donc ce n'est pas le marché central, mais c'est vrai que c'est le premier pays, et c'est un très grand pays qu'est les États-Unis pour la cosmétique. Ce qui est important aussi de voir, c'est que nos concurrents, donc la Corée, le Japon, dans une moindre mesure la Chine et le Brésil, eux aussi sont impactés. Donc eux aussi ont des droits de douane, 25%, 34%. Donc ce qui fait qu'il va y avoir un double effet. Il y a à la fois un effet sur le marché américain, qui sera plus difficile d'accès, ou en tout cas les marges seront plus faibles, mais il y aura aussi un impact que partout dans le monde, tout le monde va chercher des débouchés et la guerre commerciale va s'intensifier sur la cosmétique dans tous ces marchés.
Qu'est-ce que vous exportez le plus comme produit pour qu'on comprenne bien aux
États-Unis ? Alors, aux États-Unis, le premier produit l'an dernier aux États-Unis, c'est le parfum qui est devenu le premier export. Le deuxième, c'est plutôt les soins. Et le dernier, c'est le maquillage. Historiquement, c'était plutôt le maquillage qu'on exportait, mais le
parfum... Est-ce que tout ça, c'est fabriqué en France ?
Oui, exactement. Nous, on représente des entreprises de toute taille. Donc, la majorité de nos entreprises, c'est des PME, hein, des très belles PME qui exportent vers les États-Unis. C'est assez classique d'exporter vers les États-Unis. C'est un marché complexe, mais c'est un marché important et c'est un marché qui, jusqu'à présent, avait une stabilité réglementaire forte, donc qui permettait de s'installer et de prospérer.
Et quand on est une PME dans le secteur de la beauté et qu'on voit effectivement arriver ces droits de douane, est-ce qu'on est fragilisé durablement ? Est-ce qu'il y a un risque que certaines entreprises disparaissent ?
Alors, tout dépend de votre exposition. Ce matin, j'ai avec une entreprise qui fait 40% vers les États-Unis, par exemple. Donc, pour elle, c'est vraiment très important. Après, on ne sait pas exactement comment le 20% va se répercuter. Il y a une chaîne de production, donc nous, une chaîne de distribution. Donc, nous, on exporte, ça arrive sous douane. Et après, il y a des distributeurs, des détaillants, surtout pour le parfum. Un certain nombre de produits sont vendus en institut de beauté, sont vendus chez le coiffeur. Donc comment ce 20% va se répercuter? Soit c'est tout simplement une baisse de volume, parce qu'on augmente les prix, en tout cas parce que le détaillant exporte les prix. Soit au contraire, on baisse pas le prix, mais on baisse la marge. Donc dans tous les cas, il va y avoir une conséquence négative. Pas très facile d'établir exactement. Par contre, nous, on a cet après-midi, ce qu'on va essayer plutôt d'amener comme chiffre, c'est les États-Unis, c'est 3 milliards d'exportations, l'Union européenne, c'est 10 milliards d'euros d'exportations. Donc en fait, notre marché, il est local, il est domestique, et en Union européenne, on peut agir dessus, on a des vraies problématiques de compétitivité, comme toute industrie.
Mais ça prend du temps.
Ça prend du temps.
De remplacer un marché par un autre.
Alors, c'est pas tant une problématique de remplacer un marché par un autre, ce qui va arriver, il y a une vraie appétence pour la cosmétique française. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir innover en Europe plus facilement, justement pour préparer le rebond, innover sur des produits qui sont plus dans la durabilité des ingrédients ou des emballages, qui est quand même la grande demande de nos consommateurs le monde entier, et ce qui est de l'investissement et de la recherche très compliqué, et aussi investir tout simplement, en fait avoir une politique industrielle qui nous permet vraiment d'avoir un continent plus homogène et de gagner en compétitivité, parce qu'en fait la guerre commerciale c'est une guerre économique, et donc quelque part vos coûts de production, s'ils sont plus raisonnables, eh bien vous gagnez plus de parts de marché.
Comment vous imaginez les consommateurs américains réagir? Parce que vous dites finalement, toute la cosmétique qui sera importée aux États-Unis sera touchée, tous les prix vont augmenter. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un freinage global? Ou est-ce que ils vont continuer acheter des produits de luxe?
Alors, on peut espérer qu'ils aiment bien nos produits et que dans leur arbitrage, ils vont prendre plutôt des produits cosmétiques français. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi se dire que ce qui va se passer aux États-Unis, c'est ce qu'on a vécu il y a 2 ans avec l'inflation. En fait, tout va augmenter. Et donc les consommateurs vont faire des arbitrages. Et donc, est-ce que les arbitrages, ils vont les faire sur nos marques? Est-ce que les arbitrages, ils vont les faire sur nos produits? Voilà, c'est exactement la même situation qui s'est passée en France il y a 2 ans. Et donc, on verra. Le seul point un peu sûr, c'est que nos concurrents ont les mêmes droits de douane.
Est-ce que vous allez demander tout à l'heure à Emmanuel Macron une riposte politique?
Alors, on ne va pas forcément se positionner sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la réponse elle soit proportionnée et qu'on évite l'escalade. Parce que pour nous, alors c'est pas exactement la même chose pour les vins spiritueux, mais pour nous, en fait, c'est la première fois qu'on a les droits de douane. Hein. On a toujours eu 0% vers les États-Unis, dans les deux sens, parce que ces deux marchés, les marques américaines sont très aimées en France et les marques françaises sont très aimées aux États-Unis. Donc ça commence là, et ça va être très long, hein, parce que là, on est le 2 avril. La projection dont on passe, vous savez, quand on parle, vous savez, c'est Acier Alu, c'est dans 10 jours. Il va sûrement réagir à Acier Alu. Donc en fait, il faut aussi garder un peu son calme, parce que.
C'est une guerre d'usure qui commence.
C'est une guerre d'usure qui commence. Ça va être une guerre commerciale très longue. C'est pour ça qu'il y a aussi un certain nombre de réponses qui sont des réponses industrielles sur le continent européen.
Merci beaucoup d'être venu nous faire part de votre réaction. Emmanuel Guichard, délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté. Vous allez donc être reçu par Emmanuel Macron tout à l'heure. Et justement, puisqu'on parle de la riposte, de la réponse en tout cas à apporter, quelle stratégie adopter face à Donald Trump? Faire profil bas ou bien hausser le ton? On voit que tout le monde hésite, y compris l'Union européenne. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
En direct de Bruxelles, il n'est pas trop tard pour négocier, dit Ursula von der Leyen. Mais nous préparons des contre-mesures, dit la présidente de la Commission européenne. Et la question, Fabien, c'est de savoir ce qui serait le plus efficace. Qu'est-ce qui ferait le plus mal, finalement, aux États-Unis?
Oui, le but, ça va être d'exercer une pression maximale sur Donald Trump pour pouvoir aborder le mieux possible d'éventuelles négociations auxquelles les Européens n'ont pas renoncé, vous le disiez. En attendant de reparler aux Américains, la Commission est en train d'établir déjà une liste de produits dont les droits de douane seront relevés dans 10 jours. Ça, c'est la réponse aux précédentes mesures annoncées le mois dernier contre l'acier et l'aluminium. Ensuite, plusieurs voix européennes appellent depuis ce matin à taxer les géants du numérique, les fameux GAFAM, qui profitent sans entrave du marché européen et de ses 450 millions de consommateurs. Cette solution a notamment les faveurs de l'Allemagne et de la France, une manière de taper sur le secteur des services pour lesquels les États-Unis sont bénéficiaires par rapport aux Européens, contrairement aux biens manufacturés, services numériques mais aussi financiers. L'Union européenne pourrait également prendre des mesures de nature à freiner les flux d'investissement en provenance des États-Unis sur le sol européen.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. Et est-ce que la perspective de ces ripostes suscite l'inquiétude aux États-Unis? On va voir ça avec notre correspondant sur place, Camille Magnard. On vous retrouve. Comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui à cette guerre commerciale?
Alors du côté des marchés financiers, d'abord la réaction, c'est une contraction très nette des cours. Ça montre bien la surprise des milieux économiques face à l'ampleur des droits de douane annoncés. Et puis les craintes aussi qui reviennent, hein, de voir l'économie américaine entrer en récession dès la fin de l'année. Côté politique, Chuck Schumer, le leader des démocrates au Sénat, assure que chaque famille moyenne américaine va devoir payer plus de 5 000 dollars par an à cause des prix qui vont augmenter. Et il accuse Trump de vouloir utiliser l'argent que ces taxes douanières vont rapporter à l'État pour accorder des baisses d'impôts, dit-il, à ses amis milliardaires. Les démocrates au Sénat ont d'ailleurs obtenu hier une courte majorité pour faire voter une résolution contre les droits de douane imposés au Canada spécifiquement. Ils ont obtenu pour ça le soutien d'une poignée d'élus républicains qui ont osé critiquer publiquement cette politique par crainte des conséquences qu'elle va avoir à court terme sur le portefeuille de leurs électeurs et donc sur leurs chances de réélection. Voilà une résolution au Sénat qui est plus symbolique qu'autre chose, hein, pour montrer que cette déclaration de guerre commerciale, elle a du mal à passer, même dans les rangs conservateurs.
Merci pour ce tour d'horizon donc des réactions au lancement de cette guerre commerciale. Camille Magnard, vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
D'où est venu le Covid ? Est-il né dans la nature ou bien d'un laboratoire ? S'agit-il d'une erreur humaine ? La question se pose depuis 5 ans et nous n'aurons peut-être jamais la réponse. C'est ce que dit l'Académie de médecine dans un rapport très complet sur le sujet. On risque de ne jamais savoir, dit l'Académie, et pourtant il faut se préparer pour une éventuelle prochaine fois. L'Académie Victor Dolande formule donc une série de recommandations.
Oui, 4 en tout. La première part d'une évidence. On n'était pas prêt pour le Covid. Il faut mieux anticiper. Désormais, écrivent les académiciens dans leur rapport. Il faut donc renforcer les moyens techniques, financiers, humains et la coordination des réseaux de surveillance des risques de zoonoses avec des solutions concrètes avancées par Christine Rousiou, membre de l'Académie de médecine.
Il faut travailler de concert, beaucoup plus proches les uns des autres. Ensuite, il faut organiser une coordination, sans doute via Santé publique France, pour les collectes de données, par exemple de séquences virologiques, séquences des virus, qu'elles soient partagées. Encore une fois, nous considérons que ces données sont des biens communs qui doivent être partagées et analysées de concert.
Les médecins vétérinaires, entre autres, n'ont pas suffisamment travaillé main dans la main pendant la pandémie. Il faut aussi s'appuyer sur de nouvelles techniques de surveillance, comme le séquençage à haut débit. Le deuxième volet de recommandations concerne la culture des risques. Il faut développer des formations sur l'éthique de la recherche pour les étudiants et les chercheurs déjà en poste. Et puis, mieux connaître les risques est une nécessité. On apprend d'ailleurs au détour de ce rapport qu'on ne connaît pas le nombre exact de laboratoires où on manipule des virus. Les labos appelés P2, P3, P4 en fonction de la dangerosité des virus manipulés.
Chacun essaye de travailler au mieux dans son coin, mais pas avec les mêmes procédures et sans être recensé au niveau national. Donc ça fait partie des choses que nous préconisons, un recensement, et puis surtout des autorisations de mise en route des laboratoires P3, P4. C'est quand même assez incroyable que ces laboratoires puissent être construits sans autorisation.
Un recensement urgent car les risques existent, les accidents de laboratoire arrivent et ils sont encore trop souvent sous-estimés. L'idée n'est pas de bloquer la science, bien au contraire, mais de l'encadrer au mieux.
Merci Victor Dolande, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Les ZFE vont-elles disparaître ? Les députés, en tout cas, ont voté en commission la suppression de ces zones à faible émission, censées pousser les automobilistes à renoncer aux voitures les plus polluantes, mais qui pénaliseraient, selon ses détracteurs, les ménages les plus modestes. Les associations de défense de l'environnement dénoncent le coût écologique, le coût sanitaire de ce recul. Mais il y aurait aussi un coût économique, Claire Chaudière, selon une note de la Direction Générale du Trésor que vous avez pu vous procurer.
Ce que dit cette note de 2 pages est assez simple. Supprimer les ZFE et donc remettre en cause les engagements pris par la France en matière d'amélioration de la qualité de l'air risque d'avoir un impact financier massif de plusieurs milliards d'euros, car nous touchons des fonds européens à ce titre, une partie notamment du plan de relance post-Covid, 40 milliards d'euros au total, et qui court jusqu'en 2026. Chaque année, la Commission européenne regarde ce qui se fait réellement sur le terrain. Les fonctionnaires de Bercy tirent donc la sonnette d'alarme. Si ce recul était acté définitivement, ce serait, je cite, un signal négatif soulevé au niveau européen, avec un risque double que la France ne touche pas les 2 dernières tranches d'aide pour 2025, plus de 3 milliards d'euros, alors que les feux étaient jusqu'ici au vert. Mais l'Europe peut aussi demander le recouvrement des sommes déjà perçues, et dans ce cas, la facture pourrait atteindre jusqu'à 1 milliard d'euros. Dans le contexte budgétaire très tendu du moment, de quoi donner peut-être de nouveaux arguments dans l'hémicycle la semaine prochaine aux défenseurs des zones à faible émission.
Précision signée Claire Chaudière. Ce jeudi est une journée de mobilisation dans la fonction publique. Plusieurs syndicats ont lancé un appel à la grève pour réclamer notamment l'augmentation de la valeur du point d'indice et des mesures salariales. Et puis mobilisation aussi un peu partout en France aujourd'hui pour soutenir la recherche. C'est le mouvement Stand Up for Science qui organise cette journée d'action, la deuxième depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, car désormais des milliers de chercheurs américains qui travaillaient sur le climat ou les questions de genre se retrouvent sans emploi et les autres vivent désormais dans l'angoisse. C'est le cas notamment de cet astrophysicien français installé aux États-Unis. Toute politique de diversité, d'équité au sein de la NASA est désormais illégale sur décision de l'administration et Nicolas Flagey, qui travaille avec la NASA, doit donc lui aussi appliquer ces nouvelles règles et il s'inquiète des conséquences.
J'ai peur, mon salaire, si je le perds demain, je ne sais pas ce que je fais, quoi. Avant que les activités de diversité, équité, inclusion deviennent illégales, je travaillais un petit peu là-dessus. Je travaillais sur des efforts de durabilité, sur l'impact que notre communauté a sur le changement climatique. Tout ça, j'ai dû arrêter. Mais voilà, je suis entre guillemets connu par mes collègues comme étant quelqu'un qui voulait pousser un changement dans ce sens-là. Dans cette note qui était reliée aux efforts de diversité, équité, inclusion, qui devenait donc illégal, il était aussi indiqué qu'on devait faire un rapport, ou en gros faire presque de l'espionnage sur ses voisins et se dire « Ah, si jamais ils continuent à faire ce genre d'activité, il faut le rapporter à nos supérieurs parce que c'est interdit. » Enfin, vous voyez les relents d'Allemagne des années 30 que ça, hein, c'est exactement la même chose.
L'astrophysicien Nicolas Flagey au micro de Nina Sobetsky. Y aura-t-il une contre-manifestation dimanche à celle organisée par le Rassemblement National ? Nous sommes en train d'y travailler, dit Marine Tondelier, la chef des écologistes, alors que le RN a appelé ses partisans à se rassembler en soutien à Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité, ce qui la prive d'une candidature en 2027, en tout cas pour l'instant, car son procès en appel aura lieu dès l'année prochaine. Le RN avait vu dans cette célérité exceptionnelle un désaveu du jugement en première instance. C'est totalement faux, répond la procureure générale près la cour d'appel de Paris. Tout a été anticipé, explique Marie-Suzanne Le Quéau.
Ce n'est une surprise pour personne que dans l'affaire du Rassemblement national, il allait y avoir un appel au regard des positions antagonistes dans ce dossier entre le parquet qui soutient l'accusation et les prévenus qui estiment qu'ils ne sont pas coupables des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Donc nous avions, dès l'instant où l'affaire avait été fixée au tribunal judiciaire de Paris, c'est-à-dire il y a 18 mois en amont, nous avions à la cour d'appel déjà regardé le calendrier dans lequel cette affaire pourrait être examinée par la Cour d'appel. Et donc, tout naturellement, nous nous étions positionnés, le Premier Président et moi, sur les 6 premiers mois de l'année 2026. Pourquoi ? Parce que je suis très attachée à protéger, dans cette affaire avant tout, l'institution judiciaire. Je ne souhaite pas que ce dossier soit un élément du débat de la campagne présidentielle et que les magistrats puissent statuer avec sérénité pour rendre leur arrêt.
Marie-Suzanne Le Quéau, procureure générale près la cour d'appel de Paris ce matin sur France Info. Elle indique par ailleurs que 5 auteurs de menaces contre des magistrats ont été authentifiés. Ces magistrats qui représentaient le ministère public lors du procès de Marine Le Pen ont subi une vague de cyberharcèlement après l'annonce du jugement. C'est un autre coup de boutoir contre le multilatéralisme et le monde hérité de la Seconde Guerre mondiale. La Hongrie va se retirer de la Cour pénale internationale. Annonce du gouvernement de Viktor Orban qui accueille justement aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Alors que la Hongrie était pourtant signataire du traité de Rome qui a fondé cette Cour pénale internationale et qu'elle l'avait ratifiée en 2001, Claude Guibal, au cours du premier mandat de Viktor Orban.
Et c'est en cela que la visite de Benjamin Netanyahou, poursuivie par la CPI, était en soi un défi lancé à l'autorité de la Cour. En tant que membre fondateur de la CPI, la Hongrie est en effet théoriquement tenue d'arrêter et de livrer toute personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour. La Hongrie, jusqu'alors, louvoyait en affirmant ne pas être obligée de se conformer aux décisions de la CPI car elle n'avait pas validé la convention associée à son adhésion pour des raisons constitutionnelles. Mais en annonçant aujourd'hui lancer la procédure de départ de la CPI, la Hongrie passe un cap. Elle rejoint le Burundi et les Philippines, seuls autres pays membres à avoir quitté l'institution. De nombreux autres pays, on le sait, n'en reconnaissent pas l'autorité, comme les États-Unis par exemple ou Israël, mais tous les pays de l'Union européenne, eux, sont signataires et membres de la CPI. Mais le mandat d'arrêt prononcé contre Benjamin Netanyahou a fait vaciller l'unanimité européenne. Derrière la Hongrie, qui avait déjà annoncé ce possible retrait après l'annonce de sanctions américaines contre le procureur de la CPI, d'autres pays européens se refusent à exécuter l'ordre de la Cour, comme l'Autriche ou l'Allemagne, qui entend recevoir prochainement le Premier ministre israélien.
Claude Guibal, rédaction internationale de France Inter. Israël qui poursuit par ailleurs ses frappes sur la bande de Gaza. La défense civile du territoire palestinien fait état de 15 personnes tuées et les relations se tendent par ailleurs avec la Syrie. L'armée israélienne dit avoir répondu à des tirs lors d'une opération dans le sud de la Syrie. La guerre en Ukraine au cœur des discussions du sommet des pays européens de l'OTAN à Bruxelles. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait le déplacement pour rassurer les inquiétudes. Il dénonce l'hystérie autour de l'OTAN, assure que Washington restera au sein de l'Alliance, mais il appelle les pays membres à consacrer 5% de leur PIB à la défense. Et puis lui fait partie des innombrables civils dont la vie a été percutée par la guerre. Le comédien ukrainien Viktor Kirillov raconte sa vie dans un seul en scène à découvrir au Théâtre de Belleville à Paris. Passionné depuis toujours par la culture russe, sauf que cette culture est devenue celle de l'agresseur. Alors il raconte ce changement marquant dans sa vie. Le comédien, désormais installé en France, vient de présenter son spectacle que nous fait découvrir Stéphane Capron.
C'était le rêve de gosse de Victor, intégrer le GITIS, la plus prestigieuse école de théâtre russe à Moscou. Mais le 24 février 2022, lors des premières frappes en Ukraine, tout s'effondre autour de lui.
Quand ça a commencé, je me suis vite dit qu'en fait que je suis un traître à ma patrie. Et dans ces circonstances, je me suis dit que la seule chose qui pourrait me faire pardonner envers mon peuple, c'est de rentrer chez moi et de participer à la défense de la patrie.
Sa mère refuse qu'il aille combattre. La famille se réfugie en France. Victor trouve une équivalence au Conservatoire de Paris. Il devient ouvreur à la Comédie française. Il intègre son académie. C'est là où il décide d'écrire ce spectacle sur son exil en langue française.
Avant la guerre, là, il y avait presque 45% des gens qui parlaient plus russe dans leur vie que d'ukrainien. Et avec la guerre, on se pose juste la question, faut plus parler les russes, parce que c'est la langue de l'occupant. Et pour moi, c'est une question tellement compliquée que finalement, entre les deux, je préfère parler les français.
Et ne lui parlez plus de Tchekhov ou de Gogol, Viktor Kirillov a tiré un trait sur la culture russe.
Ça va, enfin, on joue beaucoup des russes. Ils vont se débrouiller sans moi. Avec Tchekhov, ça va bien.
Voilà, le seul en scène s'appelle « Maintenant, je n'écris plus qu'en français ». C'est donc à découvrir au Théâtre de Belleville à Paris jusqu'à la fin du mois de juin, 13h26 sur France Inter. Restez avec nous. Dans la prochaine demi-heure, on va retrouver Elodie Calac pour la météo de cette fin de semaine. On va ensuite parler d'une nouvelle série proposée ce soir sur Arte, 37 secondes, qui raconte l'histoire du naufrage d'un chalutier breton, le Bugalet de Brest, 5 morts, des années d'enquête et beaucoup de mystères. La scénariste Sophie Covès-Brun, la comédienne Nina Meurice sont avec nous, tout comme le fils de l'un des marins pêcheurs disparus dans ce naufrage. N'hésitez pas à intervenir, 01 45 24 7000. Une semaine dans leur vie, dernier épisode ce jeudi de notre feuilleton, au plus près des inspecteurs de l'environnement avec Célia Kigré. Et puis à 13h50, c'est la France. Bonjour Marie-Luce Ribaud.
Bonjour.
Du quotidien Sud-Ouest, au pays des fraises, ce printemps n'est pas tout à fait comme les autres.
Oui, parce que la filière fête un joyeux événement, la naissance d'une nouvelle variété. Je ne vais pas vous dévoiler tout de suite son nom, mais elle semble promise à un bel avenir et elle sort peu à peu de la confidentialité.
Quel teasing, Marie-Luce. Bonjour à vous, Frédéric Pommier.
Bonjour.
Qui est à votre micro aujourd'hui dans C'est une chanson.
Eh bien, nous irons à la rencontre du comédien Grégory Baquet, qu'on peut voir actuellement sur la scène du théâtre La Bruyère à Paris. Et avec lui, nous écouterons la voix de Nat King Cole, de la douceur et du sourire. La chanson, c'est Smile.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Tornado et June sont deux chats nourris de poésie et de musique.
Mathias Malzieu.
Et non seulement ils se sont mis à penser, mais en plus, ils abritent dans leur cœur le fantôme de Macha. Macha, c'est la petite fille que leur maître, enfin, ceux qui se croient leur maître, attendaient et qui n'est pas venue. Alors pour vaincre le silence, leurs maîtres, enfin ceux qui se croient leurs maîtres, ont décidé d'écouter battre leur cœur, d'écouter battre le cœur des chats.
L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, le plus magique et le plus bouleversant roman de Mathias Malzieu, un livre Albin Michel.
Il est, comment dire,
bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, bougez plus.
France Inter, partenaire de Wheel of Green, du 6 au 8 juin. Le festival est de retour au cœur du Bois de Vincennes à Paris pour 3 jours de fête et d'engagement avec LCD Sound System, Laylo, Charlie XCX, Clara Luciani, Tiakola, Beach House, Polo et Pan, FKA Twins, Lucky Love et bien d'autres encore. Plus de 70 concerts, conférences, stand-up, installations artistiques et une sélection de 60 restaurants 100% végétariens. Wheel of Green, du vendredi 6 au dimanche 8 juin, un festival France Inter.
Tout de suite la météo sur France Inter.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Et encore quelques pluies à l'ouest. Hein.
Oui, sur la façade ouest. Alors elles ont quand même tendance à s'atténuer, mais vont rester plus continues vers la Bretagne et le Cotentin. De la baie de Seine vers le Limousin et Midi-Pyrénées, là le ciel est souvent très voilé. Beaucoup de nuages aussi sur les Cévennes. Et puis en allant vers l'est, le soleil brille. Parfois un petit peu voilé des Hauts-de-France vers la région parisienne, l'Auvergne, le Lyonnais, la Méditerranée. Mais vraiment, ça ne gâche pas l'impression de beau temps. On a un vent de sud-est qui se fait sentir un petit peu partout, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure près de l'océan et en Méditerranée, 70 à 80 sur le massif central, dans le domaine de l'OTAN aussi, et même 100 à 110 vers le Lauragais et la Montagne Noire. Les températures sont très douces pour la saison, alors 14 à 16 degrés sous les pluies du nord-ouest, mais 17 à 22 degrés ailleurs. Et puis demain, à nouveau une journée très printanière avec du soleil et de la douceur qui va même encore s'accentuer un petit peu.
Merci Elodie Calac de Météo France.
France Inter, le 13-14, Céline Asselot.
Ils auraient pu éviter le naufrage.
Le risque, c'est que la justice enterre l'enquête, faute d'éléments suffisants.
Les marins du Bugalet, c'était des gars courageux et honnêtes. Ils se plaignaient jamais, ni du froid, ni de la fatigue, ni de la peur, et pourtant il y en avait. Alors oui, on en a connu des naufrages. Sauf que le naufrage du Bugalet, c'est pas un naufrage comme les autres, et ça on le sait.
Voilà, c'est donc l'histoire d'un naufrage pas comme les autres que raconte cette série qui s'appelle 37 secondes. 37 secondes où tout a basculé pour l'équipage du Bugalet de Brest, ce chalutier qui a fait naufrage le 15 janvier 2004 dans la mer de la Manche. Naufrage extrêmement rapide et une enquête qui, elle, au contraire, s'est étirée pendant de longues années sans que la lumière n'ait pu être faite. Qu'est-ce qui a tué les 5 marins qui étaient à bord? Accident de pêche, problème de manœuvre ou bien accrochage avec un sous-marin, le mystère demeure. Et la série raconte la détermination des familles pour tenter de connaître la vérité. Bonjour Nina Meurice.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous interprétez Marie dans cette série, une femme qui a perdu son beau-frère dans le naufrage et qui va lancer donc la quête de vérité. Et bonjour à vous également, Sophie Covès-Brun.
Bonjour.
Vous êtes la co-scénariste de cette série avec Anne Landois. Allez, la première question est pour vous peut-être. Pourquoi cette histoire vous a-t-elle intéressée? On est 20 ans après le drame, il restait encore des choses à raconter, peut-être une mémoire à raviver aussi.
Je pense que le travail de la fiction, c'est d'essayer de s'emparer un peu de ce qui nous a marqué, pour ne pas dire traumatisé. Et quand on est du Finistère, on se rend compte que cette histoire, elle part pas. Donc en fait, j'étais admirative du combat des familles, et donc je voulais aussi rendre hommage à ce combat aussi judiciaire. Parce que je pense que c'est des familles qui ne savaient pas du tout ce qui les attendait, et c'est peut-être... voilà.
Donc c'est une histoire qui a marqué votre région, si je comprends bien.
Ah oui, je pense que...
Tout le monde quand on d'accord. grandit dans le Finistère, on a forcément entendu parler du Bucalet de Braise.
Je pense que c'est des régions où c'est... comme un héritage, ces combats-là. Ça donne une identité.
Et vous ne vous êtes pas dit, justement, c'est énorme, comment on s'attaque à une histoire pareille, à des années de procédure?
Ça, c'est sûr qu'en tant que scénariste, voilà, c'est aussi le défi. C'est pour ça que il faut être une équipe aussi, et on est une équipe solide. Avec Anne Landois, donc on a essayé de faire au mieux, mais on reste des scénaristes. Voilà.
Vous avez fait au mieux, parce que la série, elle est très réussie. Elle a d'ailleurs été primée au dernier festival Sériemania. Nina Meurice, vous la connaissiez, vous, l'histoire de ce naufrage?
Non, pas du tout. Je l'ai vraiment découvert en lisant le scénario.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé à ce moment-là, quand vous l'avez vu? Est-ce que vous avez, vous aussi, vous vous êtes dit, il va falloir porter toute cette douleur, tout ce deuil, toutes ces années de recherche, d'attente et de non-dit aussi?
Ouais, j'étais très impressionnée par l'écriture du scénario. Ce qui m'a impressionnée, c'est l'endurance des familles, en tout cas ce temps long de combat. Souvent dans les films et dans la vie, on parle d'un combat comme ça, puis ça a l'air vif, rapide, et puis il y a une résolution. Et là, de traiter le temps long de la justice, je ne l'avais pas tellement vu avant.
Et justement, Sophie Covès-Brun, tous ceux qui se souviennent de ce dossier savent qu'il n'y a pas de happy end, il n'y a pas de vérité qui est éclate à la fin. Vous jugiez l'histoire intéressante quand même, même si elle ne se finit pas, en tout cas, le point final n'est pas posé à la fin de ce dossier, comme à la fin de cette série.
Je pense que le happy end, c'est la dignité, et c'est pour ça qu'on a été entouré aussi de l'avocat des familles. C'est comme dit Nina, c'est l'endurance d'une famille, l'endurance de se tenir dans l'épreuve et de montrer aussi l'exemplarité. Voilà.
D'ailleurs, votre personnage, Nina Meurice, il n'existe pas en tant que tel, je ne dis pas de bêtises, il regroupe beaucoup de choses. Exactement. Vous l'aviez imaginé comme un vecteur, finalement ? Je pose la question à vous l'autre. N'hésitez pas à répondre.
Nina porte la voix et je pense qu'avec Anne, on avait à cœur de mettre ça au niveau d'une femme concernée mais qui n'a pas une filiation de sang. Parce que je pense qu'il y a aussi la famille de cœur et dans cette histoire, on a choisi la belle-sœur parce que justement, c'est le pas de côté. Tout comme l'avocat ou l'expert sous-marinier et le responsable du comité des pêches à l'époque. C'est aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'être dans une relation filiale directe pour s'emparer d'un combat. Et donc, c'est ça qui nous intéresse dans ce personnage, de le construire comme ça.
C'est plus facile que d'interpréter quelqu'un qui a réellement existé. On se dit, bon, on a plus de liberté en tant qu'interprète, peut-être, Nina Meurice.
Bah c'est différent. C'est différent. Je sais pas si c'est mieux ou pas mieux. En tout cas, oui, ça donne plein d'ampleur. Et puis, comme de toute façon, c'était un combat qui a été tellement relayé dans les médias, il y avait tellement de sources, des podcasts, des émissions télé, des gens avec qui on a pu parler, que c'était. En tout cas, le temps de recherche a été vraiment passionnant.
Alors, vous n'êtes pas du Finistère. Je crois pas très loin. La Normandie, c'est pas très loin non plus.
Il paraît qu'on s'oppose, mais vraiment,
non,
c'est pas vrai.
Non, on s'oppose pas, voyons. Jamais. Nous sommes voisins. L'entente est cordiale. Vous avez voulu vous imprégner du quotidien de ce personnage, Marie. Comment vous avez fait ?
Très concrètement, en allant au mariage et en apprenant à découper des poissons.
C'est vrai ?
Ouais. Moi, je travaille tout le temps comme ça. J'ai l'impression qu'on comprend. Il y a le moment de compréhension intellectuelle des personnages. Et dans ce cas-là, en plus, les scénarios étaient si bien écrits qu'il y avait beaucoup de choses. Après, je pense qu'il y a des choses où on a besoin de les traverser pour les comprendre. Il y a des gestes aussi de pouvoir jouer. Quand j'entre au mariage, je prends mon couteau. J'ai pas besoin de regarder où c'est. Je connais les poissons. Pour moi, c'est aussi souvent une manière de rendre justice à des milieux sociaux ou des métiers que de ne pas faire semblant qu'on fait un métier.
C'est la dignité aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, le personnage de Marie, sitôt après l'annonce, revient au travail, reprend son couteau, on le voit d'ailleurs, entouré de toutes ses collègues, ça fait corps, on sent la sororité, la solidarité, il n'est pas question de lâcher à ce moment-là.
Non, et c'est ça que je trouve vraiment beau dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de... c'est un combat qui n'est pas dans un drame lourd. Enfin, évidemment, il y a un drame très lourd, mais il y a beaucoup de solidarité. C'est des gens passionnés par la mer, par leur métier, par leur région. Et en fait, ils veulent préserver ça. Et vraiment, nous, on l'a senti quand on était là-bas. Il y a eu plein de drames et qui ont traversé toutes ces familles, etc. C'est un sujet qui est là, mais il y a aussi quelque chose de très filial, je veux dire, dans ces régions que j'ai trouvé merveilleux.
Et pour l'écriture, Sophie Covès-Brun, vous vous êtes imprégnée comment, justement ? Vous êtes allée l'écrire dans le Finistère,
On a eu beaucoup de plaisir à aller avec Anne dans le Finistère, et je pense qu'on a été très bien accueillis, il fait bon vivre, donc après, c'est des gens qui adorent leur métier. Après, l'histoire de la pêche, on la connaît, elle n'est pas évidente. Donc on a beaucoup écouté, surtout, les professionnels, pour essayer de leur rendre le plus... au plus près de leur métier, voilà, c'est aussi... on essaye avec Anne de travailler comme ça.
Les professionnels, mais pas forcément les proches des 5 marins disparus dans ce naufrage, ça c'était un choix de votre part ?
On a fait le choix avec Anne, c'est aussi, je pense, une énorme responsabilité de prendre le chagrin de quelqu'un sur son dos. Donc il faut savoir où ça commence, où ça s'arrête. Pour nous, c'était comme ça qu'on a travaillé. Chaque approche est différente, mais c'est vrai que pour nous...
Pour garder sa liberté, peut-être.
Oui, et puis ça fait une ampleur pour nous, dramaturgique, dont on a besoin pour faire avancer le récit, et pour aussi montrer la procédure, qui est une procédure complexe sur des années, et la mise en fiction n'est pas toujours évidente.
Oui, c'est très technique, parfois, les termes de sous-marin, les termes du bateau, la procédure, c'est vrai qu'on se dit, ça n'est pas facile de mettre ça en image. Vous y parvenez bien, mais ça n'a pas dû être si facile.
On est beaucoup aidés par la musique de Clément, qui fait un travail formidable, qui a permis l'émotion aussi à des endroits aussi de prise de territoire. Je pense à cette scène quand Marie Médèque part avec ses copines en covoiturage à la ville pour en découdre. Moi, j'étais bouleversée et je continue à croire que c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, ça peut être à la fois très technique, très cinématographique, mais on a essayé de mener les chantiers ensemble.
Alors justement, on va voir, et tenter de voir en tout cas, comment cette série a été reçue par ceux qui peuvent s'y reconnaître, justement, dans 37 secondes. Je voudrais qu'on accueille Thierry Le Métayer dans cette discussion. Bonjour.
Bonjour mesdames.
Et merci
Bonjour.
De vous joindre à nous. Votre père Georges Le Métayer est l'un des 5 marins morts dans le naufrage du Buchelet-Braz. Il était mécanicien à bord du chalutier. Qu'est-ce que vous avez ressenti déjà quand vous avez appris qu'une série allait être inspirée de ce naufrage? Est-ce qu'il y a une satisfaction de se dire que cette histoire n'est pas oubliée, ou bien une crainte que votre histoire ne soit pas totalement respectée?
Les deux, mais en fait, de mon côté en tout cas, moi, je laisse la liberté totale aux gens, artistes ou journalistes, de s'emparer de l'affaire et d'en faire ce qu'ils veulent. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis toujours ravi, en fait, car honnêtement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre que ça ne peut être qu'un sous-marin, et que plus personne ne croit en la thèse de l'accroche molle. Il n'y a plus que le BE amer qui fait semblant d'y croire un peu mollement, d'ailleurs. Et effectivement, vous parliez d'émotion tout à l'heure, et j'ai vu que le premier épisode, hein, pour être honnête, et la scène finale avec Nina Murray, c'est splendide. Enfin, vraiment, avec la musique de la Passion du Christ, c'est vraiment génial. Et je voulais lui dire que dans son regard, elle rend toute l'émotion des 20 ans. Quoi. Vraiment, c'est très très bien interprété. Et je pense que Nathalie Glowagen, où elle est, serait contente en tout cas de cette interprétation. De son personnage, il y a un mélange, mais on est quand même sur son action, c'est elle qui a lancé l'action au départ.
C'est un beau compliment, Nina Murray.
Merci beaucoup.
Celui que vous faites, Thierry Le Métayer. Est-ce que le fait que ce soit romancé, y compris d'ailleurs votre personnage, Monsieur Le Métayer, qui apparaît dans cette série, est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que vous avez un sentiment peut-être de trahison?
Totale liberté. Ouais. Après, je peux comprendre que des gens se sentent irrité. Je salue mon ami Michel Douze, l'armateur, et je sais que ça le touche au plus profond. C'est pas la place la plus facile, la sienne, hein. C'est-à-dire d'avoir un bateau qui coule sans lui, alors qu'il était patron habituellement, et de supporter ça toute sa vie ensuite, c'est compliqué. Moi, j'ai grand respect pour lui. On a des thèses assez similaires quant à la responsabilité de certains. Moi, non, j'ai pas de problème avec ça. Je vous dis, moi, j'ai un objectif, c'est qu'on parle de l'affaire le plus honnêtement possible. Et je dois dire un truc, c'est que c'est vraiment de grande qualité, quoi. Il y a vraiment... c'est bien fait, de la belle ouvrage, on peut dire. Les moyens sont mis. J'ai rien à dire là-dessus. Après, je serai un peu plus critique sur les sources qui, selon moi, rendent la série, malheureusement, un petit peu hémiplégique, ce que je vois à peu près vers quoi on va se diriger, vers quelle thèse de sous-marin. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, enfin moi je suis un peu plus loin, mais que l'accroche-molle, c'est un leurre. Après, il y a plusieurs thèses, et il y a notamment des thèses qui sont toujours amenées par les gens qui vous ont conseillé, c'est-à-dire l'expert sous-marinier de l'OTAN, l'avocat des familles, mais c'est pas le seul, et c'est pas celui qui a travaillé le plus sur l'affaire, malheureusement, je le mets pas en cause. Il avait pris sa retraite à une époque, ouais. Il revient, bon bref.
On comprend que tout le monde n'est pas d'accord, mais... en tout cas Thierry Le Métayer, sur effectivement les conclusions à apporter à ce naufrage. Et on sent que vous avez peut-être tenté de faire un choix, Sophie Coves-Brun. Thierry Le Métayer parlait de ce sous-marin, c'est vrai que c'est évoqué avec insistance au cours de la série, même si vous ne faites pas de conclusion à la place de la justice. Mais vous avez essayé peut-être de donner une forme d'avis dans la série?
Oui, je pense qu'en tant que scénariste, on travaille la fiction, donc on travaille la matière qu'on a et on réagit aussi avec nos émotions. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est ça, c'est un tamis émotionnel. Donc parfois, on ne choisit même pas ce qui nous bouleverse. Donc nous, on a suivi aussi ce geste-là et on laisse les spectateurs et spectatrices découvrir ce voyage.
En tout cas, Thierry Le Métayer, vous avez l'espoir que cette série, le succès de cette série, réveille la procédure, qu'on aille peut-être un peu plus loin?
Alors, la procédure judiciaire, oui, on peut toujours ouvrir une affaire. Effectivement, pour être très positif, il y a encore des gens qui sont en capacité de retourner la table. Alors, je pense pas vraiment les gens qui vous ont accompagné, malheureusement. Eux, ils savent. Il y a aucun doute, l'expert dont vous parlez, lui, sait, mais il nous entraîne vers autre chose, peu importe. Mais je pense, par exemple, à un monsieur dont j'ai aucun doute sur l'honnêteté, qui était préfet maritime le jour du naufrage et qui a été mis à la retraite 6 jours après par Michel Alliot-Marie. Eh bien, cette personne qui a été longtemps patron d'une station de sauvetage en mer, SNSM, lui, il sait aussi, et ce que je peux dire, c'est que s'il a pris sa retraite 6 jours après, alors que ce n'était pas prévu, Eh bien, c'est bien parce qu'il n'a pas voulu couvrir.
On a le sentiment, en tout cas, on vous entend. Ouais, on entend beaucoup de ressentiments encore, Thierry Lemaitrier, 20 ans après ce naufrage. Il y a beaucoup de questions, hein, parce qu'on sent que la procédure n'est pas allée au bout.
Mais je fais très attention aux thèses qui sont présentées.
Bien sûr.
Parce que la thèse que vous allez soutenir, je pense, dans la série, pour moi, elle n'est aussi qu'un leurre pour faire oublier le vrai coupable qui est l'anglais. Voilà,
on comprend votre point de vue, en tout cas, Thierry Lemaitrier. Je ne sais pas, Sophie Cauvès-Brun, si vous vous êtes dit, voilà, on va réveiller un débat aussi avec cette série.
Nous, avec Anne, ce qu'on a senti, c'est que c'est de l'ordre du patrimoine judiciaire. Ça veut dire que c'est des affaires qui... la convergence de plein de théories, et après, voilà, la fiction fait son travail pour faire avancer l'intrigue, et chacun apprécie, mais tout est disponible pour se faire sa propre opinion, y compris le rapport du BMR, pas mal d'ouvrages, donc je pense que tout est accessible.
Alors il y a l'enquête, et puis il n'y a pas que l'enquête, d'ailleurs vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi toute une région de France qui est dessinée, un monde, un métier, enfin vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas de cette discussion, on comprenne que vous ne faites que l'enquête et la procédure, notamment avec votre personnage Nina Meurice, on prend aussi un peu plus de recul peut-être. Sur la vie, en fait.
Moi, je trouve que c'est la force des films en général, c'est quand ça peut devenir un peu universel. C'est-à-dire, en fait, ce combat-là, c'est celui dont on parle, mais j'imagine que sur des combats... J'entendais à la radio ce matin une famille qui est sur les pesticides. Je me disais, mais c'est exactement glyphosate, la même... Sur le glyphosate, voilà. Et je me disais, en fait, ça parle de la même chose. Et surtout aujourd'hui, je pense que dans notre contexte, dire aux gens, il faut tenir... Parce que les intuitions parfois sont justes, je trouve que c'est assez beau.
Et c'est très beau, et c'est très réussi, et c'est donc à découvrir sur Arte.tv, et à partir de ce soir sur la chaîne Arte, ça s'appelle 37 secondes, c'est votre série, Sophie Cauvès-Brun avec Anne Landois au scénario, avec vous Nina Meurice dans le rôle principal, Thierry Lemaitrier disait très justement que vous êtes formidable dans le rôle de Marie, et je ne peux que suivre son avis. Thierry Lemaitrier aussi, que l'on remercie d'avoir participé à distance à cette conversation, merci à tous les trois, et je vous souhaite une très bonne journée. C'est l'heure maintenant de notre feuilleton qui nous fait découvrir depuis le début de la semaine le quotidien et les missions des agents de l'Office français de la biodiversité, les inspecteurs de l'environnement, vivement critiqués ces derniers mois pour leur contrôle des agriculteurs, y compris par le Premier ministre. Alors que font-ils vraiment au quotidien? Eh bien aujourd'hui dans l'Yonne, les agents de l'OFB documentent près d'un ruisseau la présence d'une espèce envahissante. On va le voir avec vous, Célia Kilray. Il s'agit des écrevisses à pinces bleues.
Alors là, on a besoin donc de nos bottes, et puis on a des lampes frontales, et puis quelques pots de prélèvement. Alors soit on peut les capturer ou avec une épuisette, ou bien on peut essayer à la main, ça va dépendre de est-ce qu'elles se déplacent vite ou pas, quoi.
Voilà, un seau, une épuisette. Donc là, la nuit est tombée, et vous allez pouvoir descendre.
Exactement, on va pouvoir descendre dans le ruisseau, alors... Quand on cherche des écrevisses, on reste toujours sur le bord, en fait. On essaye le moins possible d'aller dans l'eau. Alors par rapport au problème de maladie, problème de champignons que véhiculent les écrevisses, et donc on pourrait transporter après sur nos bottes. Et puis quand on est sur des prospections sur des espèces autochtones, on va essayer de ne pas déstructurer l'habitat. Donc on essaye vraiment de ne pas aller dans l'eau, de ne pas toucher l'eau. On compte depuis le bord.
Et c'en est une alors, écrevisse à pattes bleues ? Pince bleue.
Donc c'est une espèce exotique envahissante qui était découverte en 2021 sur le site. Et c'est le seul point de présence connu en France de cette espèce. Il y a deux autres points en Europe, un au Royaume-Uni et puis un aux Pays-Bas. Donc là on va faire une prospection pour essayer de voir l'étendue et si au cours des années elle est vraiment envahissante en fait. Elle a été découverte dans un plan d'eau et dans le canal de Bourgogne. On l'a découverte seulement dans ce petit ruisseau. Et on ne sait pas encore si elle est capable de coloniser les rivières ou si elle va rester vraiment que dans le canal et dans des étangs. Et puis là, on est à la période de reproduction, c'est-à-dire c'est la période où elles ont encore des œufs sous l'abdomen. On essaye de voir en fait en termes de démographie, en fait de quoi elle est capable, en fait quelles sont ses caractéristiques biologiques par rapport à ça. Donc on sait que cette espèce, elle se reproduit une seule fois dans l'année. C'est d'ailleurs assez rigolo puisque les femelles sont capables de stocker le sperme des mâles de façon à pouvoir pondre les œufs un petit peu quand elles veulent, quand les conditions sont favorables. des travaux qu'on a déjà faits, on sait qu'on peut en compter entre 500 et 1000 pour une seule femelle. Et si on veut comparer, par exemple, au pouvoir reproducteur de nos écrevisses locales, une écrevisse à pattes blanches, c'est entre 60 et 120 œufs une seule fois dans l'année.
Aujourd'hui, on sait combien il y en a dans l'Yonne à peu près ou pas ?
On n'est pas capable de donner un nombre d'écrevisses. Ce qu'on est capable de faire, c'est de savoir est-ce qu'il y en a, on va dire, beaucoup ou pas, et surtout, quelle est son aire de répartition, et surtout, est-ce qu'elle s'étend. C'est ça qu'on va suivre, surtout.
Quels sont les dangers à laisser proliférer cette écrevisse à pince bleue ? En quoi elle dégrade l'écosystème ?
C'est-à-dire qu'en fait, elle n'était pas là avant. Sur cette espèce-là, pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle peut être la menace par rapport, on va dire, aux écrevisses locales. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle véhicule un champignon qui s'appelle l'aphanomycose. Donc la plupart des écrevisses américaines en sont porteuses saines. Et nos espèces locales, elles y sont sensibles. C'est très difficile de savoir comment pouvoir arrêter ces proliférations. Les seuls moyens qu'on a, c'est de restaurer nos milieux aquatiques où il reste encore des écrevisses locales, de façon à rendre les populations plus fortes et les milieux moins perméables aux écrevisses exotiques. Les prendre pour les manger, c'est très bien, mais attention à ne pas les déplacer pour en mettre ailleurs.
C'était le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine, signé Célia Kingré, avec Stéphane Ronxin à la réalisation, et tous les épisodes à retrouver, bien sûr, sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France, et comme chaque jeudi, on vous retrouve, Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Alors vous nous dites, Marilus, que nous allons prochainement découvrir une nouvelle variété de fraises. Pourquoi cet événement n'est pas si anodin ?
Pour deux raisons, Céline. La première est facile à deviner. Ce fruit est notre préféré. Il attise nos sens et aussi notre curiosité quand une nouvelle variété ramène sa fraise sur les étals. La deuxième raison qui donne à cette naissance un caractère exceptionnel et plus économique. La filière française a trouvé sa voie, celle de l'excellence pour mieux naviguer en zone de concurrence. Un nouveau produit agit comme un antidote aux importations. Car si l'afflux de fraises espagnoles est toujours fort, il a baissé depuis 10 ans, tandis que la production nationale a augmenté.
Allez, on va mettre fin au suspense, Marilus. Comment s'appelle cette nouvelle fraise ?
La Floriguette. Elle est née chez Jean-Jacques Morvan dans le village breton de Plouguerneau, 155 habitants. Cet agriculteur passionné a testé quelques plants, leur provenance est top secret et les essais se sont révélés probants. Cette année, 85 tonnes vont être commercialisées sur les 3000 récoltées dans la région de Plougastel. Une goutte d'eau. On produit 76 000 tonnes de fraises en France, majoritairement dans le sud-ouest, en Rhône-Alpes et en Provence. Il sera donc périlleux de trouver des floriguettes cette année. Mais en 2026, la coopérative Saveol, qui les commercialise, va multiplier sa production par 4.
Et pourquoi créer une nouvelle variété de fraises ?
Bon, un mini cours de botanique s'impose.
Allez-y.
Des variétés de fraises, il en existe plus de 600. Mais très peu passent le crash test de la barquette diffusée en masse. Il faut donc qu'elle ait à la fois du goût et qu'elle mûrisse sans pourrir trop vite. Issue de croisement, la floriguette, avec sa forme conique, sa douceur au palais, son arôme sucré, peu acidulé, concentrerait donc tous les atouts. Mais ce n'est pas tout, renchérit Pierrick Léost, maraîcher et vice-président de Saveol. Nous cherchions un fruit qui arrive à maturité dans la période creuse du 15 mai au 15 juin, entre la première et la seconde pousse de la gariguette. Cette perle rare, elle a aussi un autre avantage, ses rendements à l'hectare sont soutenus.
Et peut-être aussi l'avantage d'être plus cher ?
Eh bien, pas du tout. Son prix pourrait être même inférieur à celui de la gariguette. À quelques centaines de kilomètres de Plouguerneau, un jeune chef de 27 ans, Louis Festa, est intrigué et promet de faire rapatrier quelques barquettes de floriguette pour son restaurant Les Singuliers à Saint-Astier. Il vit en Dordogne, ici le printemps est tout rouge. J'ai grandi à Paris et quand je me suis installée, j'ai mesuré à quel point la fraise est inscrite dans le patrimoine culinaire de ce département. Alors évidemment, je m'en donne à cœur joie. J'ai découvert qu'elle s'associe aussi à merveille avec les asperges blanches, le pigeon, le gibier, même si je la cuisine surtout en dessert.
Louis Festa qui propose d'ailleurs un classique, la tartelette aux fraises.
C'est parti. D'abord la pâte. Mélangez 100 g de beurre mou avec 70 g de sucre glace. Ajoutez 200 g de farine et enfin un œuf. Étalez dans 5 petits moules et posez un poids. Faites cuire au four pendant 15 minutes à 160 degrés. Pendant la cuisson, montez en chantilly 100 g de crème avec 20 g de mascarpone et 10 g de sucre glace. Grattez une gousse de vanille et ajoutez tous les grains. Dans une casserole, vous faites mijoter en purée 100 g de fraises mûres. Vous ajoutez encore un peu de vanille. Vous déposez la crème montée dans les tartelettes. Ajoutez 100 g de fraises coupées et nappez avec le coulis refroidi. Ce petit gâteau se déguste comme un bonbon, nous dit-il, et on le croit.
Ça donne envie de tester, en tout cas. Merci beaucoup, Marie-Luce Ribot. Du quotidien Sud-Ouest, de C'est la France à C'est une chanson. Et c'est le comédien Grégory Baquet que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Grégory Baquet qui est à l'affiche du théâtre La Bruyère à Paris dans la pièce Coloratour. Et c'est la chanson Smile qu'il a souhaité que l'on écoute, chanson composée dans les années 50 sur une musique écrite par Charlie Chaplin pour son film Les Temps Modernes. Grégory Baquet l'a choisie parce qu'elle lui rappelle son père, Maurice Baquet, un homme aux multiples talents. Il était acteur, violoncelliste, acrobate, skieur, fantaisiste. Il est mort il y a 20 ans.
Mon papa a été très proche de beaucoup de gens à une époque, puisqu'il a eu la chance de faire les premières tournées internationales avec les Branquignols, la compagnie de Robert Derry. Et quand les petits Français arrivaient là-bas aux États-Unis, tous les Américains venaient voir ce que faisaient les petits Français. Dont des humoristes, Buster Keaton, Charlie Chaplin. Et petit, dans le bureau de papa, je voyais des photos en noir et blanc de tous ces artistes avec papa. Et tout d'un coup, je vois une photo d'un monsieur que je reconnais, mais il est pas maquillé. C'est Charlie Chaplin. Et je vois un mot écrit au stylo qui est en train de s'effacer, où il y a juste marqué « Best friend Maurice Charlie ». Et je dis à papa, mais c'est-à-dire, tu connais cet homme-là ? Il dit, bah, bien sûr. Et le deuxième souvenir, c'est le cinéma. Puisque papa avait des copies 16 mm qui sentaient bon la pellicule avec un vieux projecteur Bell & Howell. Et il nous projetait, moi et mes frères et sœurs, sur un écran dans le salon. Il mettait la pellicule dans le Bell & Howell et on regardait les films de Chaplin, les premiers Charlot.
Dont celui-ci, Les Temps Modernes.
Exactement.
Vous aviez quel âge quand vous avez vu ce film ?
9-10 ans, je pense.
Smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Alors Frédéric, c'est le premier interprète de cette chanson que l'on entend ici. Il s'agit de Nat King Cole.
La voix de Nat King Cole, la douce voix de Nat King Cole qui l'a encore réveillé chez Grégory Baquet, le souvenir de son père.
Nat King Cole, c'est un de ceux que papa écoutait en boucle. Et j'étais fasciné par la voix de cet homme d'une telle douceur. En fait, j'étais fasciné par la fascination de papa. Papa qui était quand même un artiste complet, qui nous a quand même estomaqué enfant, parce que papa, il faisait plein de choses, on se disait, voilà, c'est dingue. Et que lui soit fasciné par quelqu'un d'autre, c'était fascinant. Donc tout d'un coup, je me disais, Nat King Cole, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Et effectivement, c'est une musicalité incroyable, une simplicité dans l'exécution. Comme Chaplin, comme papa aussi, finalement. C'est de faire les choses simplement, mais avec cœur.
Although a tear may be ever so near.
Est-ce que ce que raconte cette chanson, ça vous touche également ?
Énormément, puisque on a tous des hauts et des bas dans la vie. On a tous des moments où on se lève et on se dit qu'on préférerait rester au lit, voire plus fort, se dire « j'aimerais arrêter de vivre, ça peut arriver ». Et ces paroles, où le chanteur n'arrête pas de dire « arrêtons de pleurer ». Voilà, on peut pleurer, mais il faut savoir s'arrêter de pleurer et se forcer à sourire un petit peu. Juste se forcer au début à sourire nous redonne la pêche et en fait tout s'illumine. On n'oublie pas qu'on a été malheureux, mais on passe à autre chose. Tout peut évoluer, le malheur peut évoluer en bonheur.
C'est précisément ce message qu'elle porte cette chanson.
Exactement. Moi j'ai toujours vu le verre à moitié plein. L'optimisme de mon père, peut-être, l'optimisme aussi des gens qu'il a côtoyés, comme Prévert, qui disait d'ailleurs à papa, « Maurice, si tu veux être heureux, sois-le. » Et j'ai jamais compris ça quand j'étais petit. Je me disais, mais on peut pas se forcer à être heureux, mais si. Si, si, bien sûr. On rentre dans une espèce de litanie de « Ah, oh, je vais pas bien ». Mais pourquoi est-ce qu'on rentrerait pas dans une litanie de « Ah, oh, je vais bien ». Je vais bien, je vais bien. Et à force de se le dire, en fait, finalement, on s'aperçoit qu'on va pas si mal.
If you just smile.
Smile de Nat King Cole, c'était donc Frédéric, le choix de Grégory Baquet.
Grégory Baquet que vous pouvez retrouver actuellement sur la scène du théâtre La Bruyère à Paris dans la pièce Coloratour.
Merci Frédéric Pommier. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour.
Quel est le programme de La Terre au Carré?
Eh bien, nous allons parler de Sapiens et des microbes dans un instant.
À tout de suite Mathieu.